Michel Hazard, Vinicius, bonjour. Alors, vous êtes à Bruxelles pour nous présenter Coupé, le dernier film qui avait fait l'ouverture à Cannes. Alors, je vous avoue que j'ai vu Coupé à Cannes et je me suis demandé, mais comment l'un de mes réalisateurs préférés est-il tombé aussi bas? Heureusement, ça n'a duré que 30 minutes parce qu'après, ça c'est devenu, bien entendu, jubilatoire, désopilant. Alors, maintenant que le film va sortir le 29 juin, on peut se demander, est-ce que le spectateur lambda, dirais-je, ayant déjà pu lire ce que n'était pas le cas à Cannes, est-ce qu'il va malgré tout être surpris selon vous et est-ce qu'il va quand même fonctionner entre guillemets?
Ah ben oui, je crois, parce qu'en fait le film pour moi est un peu conçu comme un tour de magie. Et alors si on n'a jamais vu le tour de magie, de toute façon on est quand même bluffé. Et en fait, je vais vous surprendre, mais c'est un film qui est très agréable à revoir. Quand bien même on connaît le twist du film et la surprise, justement, on revoit le truc en connaissant et on le regarde d'une autre manière. Et il y a même des gens qui ont préféré la deuxième, voire la troisième vision. Je suis pas en train de vous dire d'acheter deux tickets, mais en tous les cas, oui, l'effet de surprise est très bien pour quelqu'un qui ne connaît rien. Mais il y a un petit côté un peu vertigineux, parce que comme vous l'avez dit au départ, on est un petit peu dérouté. Mais après, c'est un plaisir de se dire... la satisfaction est d'autant plus grande de s'être fait avoir et de se dire « Ah, pas mal, le culot !» Mais oui, je crois que ça marche dans les deux cas. Ouais.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un film à trois niveaux, un peu la nuit américaine 3.0 ?
Oui, d'ailleurs, un des titres de travail, c'était « La nuit japonaise », effectivement. Oui, c'est une manière de... Il y a régulièrement des comédies de tournage, des films sur les tournages, sur des réalisateurs, etc. Celui-là, alors c'est un remake d'un film japonais, un film d'étudiant.
Ueda.
Et Shinichiro Ueda, le film s'appelle Ne coupez pas. Moi, je l'ai appelé Coupé. Et il a une structure, et je le dis alors vraiment, c'est pas de la fausse modestie, puisque c'est la structure de quelqu'un d'autre. Il a une structure qui est tout à fait brillante et extrêmement ludique. Donc, je sais pas si c'est 3.0, mais en tous les cas, c'est un joli tour de passe-passe, quoi. Voilà.
Est-ce que dès le départ, vous saviez que vous alliez faire un film sur un tournage et qu'on vous a présenté à ce moment-là le film japonais?
Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors je ne savais pas si ça allait être mon prochain film, parce que j'écris, et alors en plus c'était le confinement, donc j'écris un peu, je prends des notes, etc. Mais il y avait quand même une histoire qui commençait à se dessiner, et un peu par la bande et un peu par hasard, on m'a proposé, c'est parce que j'ai parlé avec un Vincent Maravan, le producteur, et je lui ai raconté ce que je faisais, et c'est là où il m'a dit, mais je viens d'acheter les droits de remake d'un film, voileux. Et en fait cette coïncidence, ce truc, c'est vrai que j'ai vu le soir même le film, et le lendemain je l'ai appelé, je lui ai dit, je le fais, je crois, parce que... C'est brillant et le terrain de jeu, je pense, me convient parfaitement bien.
Alors, 5 semaines de répétition pour créer ce quelque chose de fusionnel, c'est énorme, mais c'est un luxe quand même, non ?
Non, parce que c'est le temps de préparation. En fait, j'ai passé pratiquement toute ma préparation à faire ça. Mais vous savez, quand vous avez la chance, plus que le luxe, ça a été qu'on ait trouvé ce lieu très rapidement. Et donc, j'ai pu vraiment m'installer là-bas, parce que dans votre préparation, il y a beaucoup de temps que vous passez au repérage, c'est-à-dire aller chercher les décors, etc. Là, j'avais le décor très vite, donc on l'a investi avec les acteurs. Et oui, alors c'est un peu un luxe quand même d'avoir des acteurs qui se prêtent au jeu comme ça. Oui, c'est quand même un luxe, il faut dire.
Alors, vous avez travaillé avec un storyboard comme pour le Prince oublié.
Oui, comme toujours.
Est-ce que il y avait quand même une marge d'impro pour les comédiens?
Non, honnêtement, très peu. Par contre, quand vous travaillez 5 semaines, vous travaillez, donc vous changez, vous adaptez. C'est-à-dire, quand je dis qu'il n'y a pas d'impro, les acteurs ne sont pas des marionnettes entre mes mains, je ne suis pas un dictateur. Mais on travaille. Mais une fois qu'on place les choses, il y a tellement d'intervenants, c'est une chorégraphie tellement précise pour faire un plan comme celui-ci, que ce soit en place de caméra, en focale, utiliser la place du cadran, la place de chaque acteur pour chaque action, etc. Elle est tellement précise pour que les plans fonctionnent que l'improvisation est pas... Non, elle n'est pas de mise. Et puis je peux vous dire que quand vous êtes à la 28e minute... L'acteur qui va se mettre à improviser, il a de l'audace.
Alors, c'est quand même fort complexe au niveau du montage, en 250 plans, et puis il y a les fameuses 30 minutes de plan-séquence. C'est énorme, là. Vous imaginiez ce que vous aviez entrepris comme...
Les 250 plans, en fait, c'est comme quand moi, j'ai storyboardé ce plan-séquence, je l'ai pensé comme s'il y avait 250 plans différents. Mais ils sont tous reliés en un. Donc c'est, là, il n'y a pas réellement du montage, il y a du montage au son. J'ai été prendre des sons de plein de plusieurs prises différentes, mais en image, il y a pas de. Après, dans le film, il y a beaucoup plus de plans que ça. Mais en fait, moi, n'ayant jamais fait de plan séquence aussi long et n'étant pas un adorateur,
c'est peu courant quand même. Aussi, hein? C'est peu courant quand même.
Non, mais il y a des adorateurs, des réalisateurs comme Gaspar Noé, Alfonso Cuarón, Iñárritu. C'est des adorateurs du plan séquence réellement. Donc eux, ils peuvent. Voilà. Moi, n'ayant jamais fait ça, c'est vrai que je me suis dit. J'ai réfléchi en termes de séquence, en termes de comédie. Je me suis dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et en fait, j'ai posé mes plans et j'ai storyboardé. Et ensuite, on l'a réglé. Puis j'ai adapté, évidemment, ce que j'avais fait sur le papier. Comme ça, je l'ai adapté aux acteurs, au travail avec les acteurs. Et puis ce qu'il était possible de faire physiquement aussi pour le cadreur, etc. Mais oui, on l'a vraiment beaucoup travaillé. Ouais, on a beaucoup travaillé.
Alors, vous avez quand même une fine équipe de comédiens. Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, délicieux en disciple de Lars von Trier.
Oui, oui.
Et puis une autre, Charlie Dupont. Ça devait être pas être triste sur le tournage où ils étaient disciplinés quand même, ou c'était de cancre là.
Ah non, pas du tout. Non, d'abord, vous savez, donc ces 5 semaines de répétition, c'était surtout avec les 7 acteurs qui sont dans le plan séquence, Raphaël Quenard, Mathilde Lalutz, etc. Et donc ces 7 acteurs, en fait, de les avoir comme ça pendant 5 semaines tous les jours, disponibles, parfois travaillant que 5, par exemple Grégory Gadebois ou Romain Duris pouvaient arriver puis travailler que 5 minutes dans la journée parce qu'on travaillait une séquence dans laquelle il n'était pas. Finalement,
tout le monde était bien disponible.
Tout le monde était totalement disponible. Tout le monde était là. Tout le monde était prévenant et très solidaire les uns avec les autres. Et en fait, ça a créé un esprit de troupe qui s'est fait autour des acteurs et non pas comme parfois ça peut arriver. C'est-à-dire, on fait toute la préparation avec les équipes et l'équipe ne voit pas les acteurs très peu. Et puis après, les acteurs viennent. Mais c'est un peu comme si les acteurs venaient dans l'équipe composée de techniciens. Là, c'était un peu le contraire. C'était les acteurs qui ont accueilli la technique. Et c'est vrai que ça a créé un truc autour des acteurs, un truc de troupe, qui fait qui était très, très, très agréable. Et tous les acteurs qui sont venus après, qui n'étaient pas dans le plan séquence, finalement, on rejoint la troupe. Ils étaient extrêmement disciplinés, je ne sais rien dire, parce que moi je suis pas dresseur pour chien, mais ils étaient disponibles, enthousiastes, et c'était vraiment cool, quoi.
Alors, au Truffaut, j'avais trouvé comme référence Guy Ritchie et Steven Soderbergh pour Ocean Eleven. Dans la façon de trouver, bah oui, bien sûr, c'est évident.
Ah oui, oui, il y a aussi, il y avait un film qui s'appelait Ça tourne à Manhattan de John DiCillo, je crois, qui était pareil sur un tournage complètement foireux.
S'explique, quoi.
Tout s'explique, et puis les films de troupe. Je prends Soderbergh, c'est un de mes réalisateurs préférés, donc j'adore Soderbergh. Donc, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres cinéastes qui vous inspirent comme ça ?
Non, là, je dois dire que Shinichiro Ueda, là, c'était quand même la principale source d'inspiration. Je peux pas dire, je ne peux pas ne pas le citer en réponse à cette question, qui a un cinéaste très jeune, puisque c'est son film d'étudiant, enfin de fin d'études, qui m'a servi de mode d'emploi pour ce film. Donc, mais non, c'est pas vraiment un film référent. Enfin, c'est pas
clin d'œil.
Oui, j'ai été fidèle au film dont j'ai fait le remake et j'ai essayé de trouver ma voix en restant fidèle, mais c'est pas un film vraiment référent, je dirais.
Est-ce que c'est dur de faire une do?
Alors, ce qui est dur, c'est quand vous mettez autant de temps, parce que donc on parle donc de ce film dans le film qui est un film raté. Si on devait résumer le film, ça pourrait être l'histoire d'un film raté ou comment rater son film. Ce qui est dur, c'est quand vous passez 5 semaines avec des acteurs aussi bons, aussi dévoués, une équipe aussi enthousiaste et volontaire et disponible. et que vous êtes condamné à faire un film raté, alors même que vous avez un plan séquence de 32 minutes, donc il y a un côté quand même virtuose à faire un plan comme celui-ci, et vous vous obligez à ce qu'il ne soit pas drôle, à ce qu'il soit mal rythmé, pas drôle, c'est-à-dire qu'il passe par des chemins très étranges, quoi. Voilà, c'est une drôlerie qui est étrange. Mais moi, si j'avais dû le faire, j'aurais mis des vannes partout, j'aurais rythmé, j'aurais été accéléré, j'aurais fait plus. Voilà. Mais c'est pas moi, c'était pas mon film à moi. C'est le film de mon personnage. Donc il fallait que je respecte ça parce que c'est l'histoire, c'est le scénario.
Alors, une dernière question qui concerne un de vos projets, puisque vous en avez multiples, c'est La plus précieuse des marchandises, oui. Film d'animation qui est l'adaptation du conte de Jean-Claude Rimbert et qui sera, attention, coproduit par les frères Dardenne,
ouais,
et par Guy Liguian. C'est assez surprenant comme association, non?
Ben d'abord, les frères Dardenne, je les aime beaucoup. On s'est croisés vraiment à maintes reprises dans différents festivals, etc. Ils sont, d'abord, ils sont très amusants. Vous devez le savoir aussi. Mais les gens n'imaginent pas toujours que les frères Dardenne soient si amusants. Donc moi, je rigole énormément avec eux. Donc ça, c'est la première chose. Donc je suis ravi de faire ça. Et puis, écoutez, oui, le via Robert Guédiguian. Alors c'est la société de Robert Guédiguian, mais c'est plus exact. Exactement, Patrick Sobelman, avec qui je travaille. Donc, via Robert Guédiguian, les frères Dardenne sont arrivés en coproduction sur les films. Ils ont adoré le projet. On s'est parlé. Ils suivent, mais vous savez, ils me font confiance et ils sont ravis d'être. Enfin, je crois qu'ils sont. Dernière nouvelle, en tous les cas. Ils étaient ravis de coproduire ce film et moi, je suis ravi de les avoir comme coproducteurs.
Alors, c'est vrai, on le sait, vous êtes un amoureux du cinéma. Bon, pour ne citer un film muet, un hommage à Godard, un OSS 117 façon de Broca, une série Z, un conte de fées façon Roger Rabbit. Et maintenant, l'animation, c'est quel défi pour vous, c'est de ce film de La plus précieuse des marchandises?
C'est un film peut-être qui est un peu plus intime, je dirais, peut-être même un peu plus frontal, alors même que c'est un film d'animation, étrangement, mais c'est un film qui a la croisée de plein de choses, d'abord parce que c'est un film qui se passe pendant la Shoah, et de manière très, c'est-à-dire ça se passe pas pendant la Shoah, mais je sais pas, en Hollande, ou je sais pas, ça se passe vraiment au cœur de la forêt polonaise, près des camps d'extermination, et ça se passe à Auschwitz, pour tout dire. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui pour moi est assez intime, puisque mon histoire familiale vient de cette histoire-là. C'est écrit par Jean-Claude Rimbert, qui est un des meilleurs amis de mes parents depuis qu'ils ont 15 ans. Donc Jean-Claude, c'est comme un oncle pour moi. J'ai toujours entendu Jean-Claude dans ma vie, il a toujours été présent. Et puis c'est un rapport aussi au dessin je dessine depuis que j'ai 10 ans, mais ça a toujours été une activité très intime dont j'ai jamais.
D'où les storyboards.
Oui, d'où les storyboards, mais si vous voulez, c'est pour moi. Alors ça, les storyboards, ils sont pas faits pour être jolis, ils sont faits pour être efficaces. Et donc c'est pas du dessin d'art, hein. c'est vraiment très c'est un outil de travail, les storyboards. Là c'est pas pareil, là il s'agissait de mettre le dessin au cœur d'une création, et donc ça, c'est très intime pour moi, assez violent, je dois dire, assez violent de montrer mes dessins et de les mettre au cœur de quelque chose. Et en plus, avec cette histoire là que je m'étais non pas promis, mais que j'aurais pas cru faire un film sur la Shoah. Alors c'est pas sur la Shoah, c'est pas le sujet, mais disons un film qui se passait dans ce contexte-là, j'aurais pas cru le faire. Et donc voilà, c'est un peu un croisement de plusieurs choses très intimes. Donc là, je crois pas. Alors oui, c'est un film d'animation, mais je crois pas. Et il y a un travail sur la forme, évidemment, qui est primordial, d'autant plus vu de ce sujet-là. Mais il n'y a pas, je crois pas qu'il y ait le filtre du cinéma comme il peut y avoir dans OSS ou dans Artiste ou Le Redoutable.
Un grand merci en tout cas, Michel, et on rappelle donc Coupé qui sort le 29 juin. Merci à vous.
Merci.
Alors.